vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, vous êtes bien avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, pour son émission au Café littéraire et celle du mois de septembre. Pour cette rentrée de septembre, j'ai eu la chance, oui c'est une chance, de recevoir de bons livres. Alors je vais pouvoir vous en parler avec vivacité, voilà. Le premier, c'est « Ce qui nous frôle sous la surface » de Colum McCann aux éditions Bellefond. Le deuxième est pour moi encore plus important, « Ce qui se joue », voilà, c'est de Caroline Hinault aux éditions « La brune du Rouergue ». Un récit enlevé et qui est pour moi tout simplement fabuleux. Ensuite, il y a aussi un grand livre, Lazare, intitulé Lazare. C'est de Nelio Biderman, un auteur suisse. Là aussi, c'est édité par Bellefond. Et je remercie beaucoup Yann Duperrier de chez Bellefond qui m'a fait parvenir ce livre phare. Voilà. Le quatrième livre, c'est Les Mirages d'Adoua de François Werther au Rouergue noir. C'est un roman policier, là. Un bon roman en partie historique. J'ai déjà parlé de François Werther, je le refais avec plaisir. Le cinquième livre est Les Hallucinés de Pierre-Olivier Capéran au Rouergue noir aussi. Merci là à Nelly Mladenov qui me l'a fait parvenir. Le sixième livre est aussi quelque chose de particulier d'enlevé. La vie, un grand V, vie. Un père et passe, c'est de Jean-Michel Guénassia aux éditions Albin Michel. Et là, je remercie Gilles Paris qui a fait la diffusion de ce livre. Une écriture sensible, ce roman est une pépite avec une belle couverture un peu impressionniste. Un septième livre que je suis obligé de vous présenter, Navré, avec un titre comme ça, Navré, de Raphaël Jérusalemi, L'Animal aux éditions de l'Animal, diffusion de Gilles Paris, et je vous en parlerai brièvement parce que j'ai un huitième livre très très important, indispensable même, Lourdes, qui parle de Lourdes. Lourdes qu'on ne dit presque jamais, c'est de Bernard Marie, un grand auteur, et c'est édité par Pierre Tecky, un ouvrage indispensable pour comprendre Lourdes et l'enseignement de la Vierge Marie à Bernadette Soubirou. Voilà. Donc, je commence par le premier, qui nous vient d'Irlande, Ce qui nous frôle sous la surface. C'est de Colum McCann aux éditions Bellefond. C'est un livre de 314 pages, 23 euros, un grand livre composé de trois parties intenses. Il y a un premier personnage, Anthony Fennell, écrivain irlandais en plein doute et qui espère retrouver l'inspiration avec un reportage sur un fait intrigant et captivant. La rupture des câbles des fournisseurs Internet, enfouis en pleine mer, et il y a une panne géante des réseaux de téléphonie en Afrique qui lui donne l'occasion d'embarquer sur l'un des bateaux chargés des réparations. Et donc nous allons dans ce livre, depuis Bruxelles, en direction du Ghana, sur le cap au cap, depuis Bruxelles et en direction du Ghana, sur le bateau qui s'appelle le Georges Lecointe. Voilà. Le chef de mission, un autre personnage emblématique d'ailleurs, est John Conway, un compatriote irlandais. À Fennel, Anthony Fennel est fasciné par le charisme de cet ingénieur apnéiste hors pair, vous allez voir. Il plonge comme ça très loin dans la mer. Et par le couple étrange qu'il forme avec Zanel. Zanel est une actrice sud-africaine qui partira à Londres afin de connaître la célébrité. Elle est mère de deux enfants. Et tandis que le bateau remonte la côte d'Afrique de l'Ouest, Fennel et Conway vont se retrouver confrontés à une ironie tragique, car les câbles qu'ils doivent réparer, et ils seront tout de même réparés, transportent des nouvelles susceptibles, voilà, c'est là le cœur du problème, des nouvelles susceptibles d'ébranler leur existence respective, avec notamment le Covid. Et voici une phrase: nous sommes tous des petits morceaux dans la collision. Nos vies rebondissent ça et là au fond de la mer. Il se peut que nous frôlions délicatement les uns les autres pendant quelque temps, mais à la fin, c'est inévitable, nous nous percutons et nous volons en éclats. Voilà, donc ce roman de Colum McCann, Ce qui nous frôle sur la surface, aux éditions Bellefond, est presque une tragédie. Conway, une fois la mission terminée, il semble disparaître du bateau, qui part sans lui et sans le narrateur. Mais on va retrouver ce bateau ici ou là, insaisissable, et son personnage sont insaisissables, tout comme Zanel, pour le retrouver en troisième partie en Égypte, à Alexandrie, là, un grand lieu Alexandrie, là où il y a aussi des câbles stratégiques à démolir et à semer, formant le chaos. Voilà. Alors Colum McCann explore notre capacité à nous relever après la chute, qu'elle soit intime, politique ou artistique, une œuvre poignante sur la solitude humaine, le désir de lien, le colonialisme moderne, le réchauffement climatique, l'engagement social et le désespoir de celles et de ceux qui refusent de subir. Voilà donc un grand roman de Colum McCann aux éditions Bellefond. Le deuxième livre est pour moi encore plus important. J'ai peut-être pas dit le Colum McCann, 314 pages, 23 euros. Le deuxième livre, Ce qui se joue, de Caroline Hinault aux éditions La Brune du Rouergue, 413 pages, donc plus important encore, 23 euros, c'est les prix maintenant, de même des grands livres. Ce récit, pour moi, est tout simplement fabuleux. Elle imagine le Fatum. Alors, qu'est-ce que le Fatum ? C'est un mystérieux virus qui s'attaque au langage, et provoque l'aphasie. C'est-à-dire que les personnes qui ont contacté ce virus ne peuvent plus parler, s'exprimer. Et l'aphasie se répand dans la société. Déjà chez les enseignants, qui sont les premiers frappés. Et pour les pouvoirs publics, il y a urgence à enrayer la progression de cette épidémie. On peut penser au Covid, mais c'est autre chose. Ça attaque le langage. Donc, épidémie est à comprendre ce qui se joue à l'école. Alors, il y a deux personnages. Le premier, c'est Reverdy, fonctionnaire, attaché au cabinet de la ministre de l'Éducation nationale. Il est envoyé en observation dans la classe de Monia Boukhari, le deuxième personnage, qui est l'enseignante, bouillonnante enseignante d'une seconde au lycée Aimé Césaire, berceau du patient appelé patient zéro, qui est Patrick, un professeur qui est le premier atteint de cette aphasie. Et puis il entend une musique répétée dans sa tête, sombre, de musique de Chopin. Dans ce texte éblouissant, plein d'humour et de panache, qui jongle avec toutes les ressources de l'écriture, passant de la prose à la poésie, du roman au théâtre, de la tragédie à la comédie et pour finir au portrait, qui est une composition. Caroline Hinault, une voix ardente, met au cœur de son intrigue la puissance protéiforme du langage. Voilà pourquoi j'ai trouvé que c'était fabuleux. Dans quel monde vivrons-nous si nous ne possédons pas les mots pour le dire, l'imaginer et le comprendre, ce monde? Comment se saisir soi-même et construire son rapport à l'autre sans langage? Quels seront nos liens si nous cessons de tenir parole et détruire le sens des mots ? Point d'interrogation. Sur ces enjeux brûlants, Caroline Hinault nous emporte avec jubilation dans un roman dont on sort plus éclairé et plus fort pour lutter contre la loi. La loi qui s'impose, c'est celle d'un sens unique, avec des interdits, une loi qui semble s'imposer. Née en 1981 à Saint-Brieuc, Caroline Hinault est agrégée de lettres modernes. Elle enseigne la littérature. Pour elle, la littérature, c'est la vie. À Rennes, où elle vit aujourd'hui. Voilà pour ce grand roman de Caroline Hinault, Ce qui se joue aux éditions La Brune du Rouergue. Le troisième livre est aussi important. C'est un roman historique de 350 pages, 23 euros. Ça, c'est de Nelio Biderman, qui vient de paraître aux éditions Bellefond, que je remercie pour ce grand roman. Je l'ai trouvé encore mieux écrit en le relisant, parce que j'ai eu plaisir à le relire. Cet auteur est suisse, et il possède l'art de raconter. C'est une fiction, mais on y croit, à cette illustre famille, les Lazare, d'où le titre, les Lazare, les deux Lazare. Et sur sa biographie, où il est dit, biographie de l'auteur, où il est dit, puisque c'est la conclusion de ce récit, que né en 2003, Nelio Biedermann a grandi sur les bords du lac de Zurich. Sa famille paternelle est issue de la noblesse hongroise. Ses grands-parents ont fui vers la Suisse dans les années 1950. Donc on retrouve tout ça dans ce grand roman « Lazare » de Nelio Biedermann. Il a étudié la littérature allemande et le cinéma à l'université de Zurich avant d'écrire son premier roman non traduit et déjà fort remarqué par la critique. Mais c'est son deuxième roman, celui-ci, « Lazare », qui va le révéler à l'international. Ce sera un livre phare de la foire de Francfort. Lazare paraîtra dans 27 pays. Voilà pourquoi je voulais absolument vous en parler. Dans ce roman monde, tout commence avec la venue au monde de Lajos von Lazare. C'est un enfant blond, aux yeux clairs. Ce qui le différencie. Tout commence et tout finira aussi, se dit son père, le baron Sandor von Lazare. Face à ce fils qui ne ressemble à personne, car dans le château familial, niché au cœur de la forêt, la naissance de l'enfant au premier jour du XXe siècle va bouleverser à jamais la vie des barons von Lazare. Et c'est d'abord la chute de l'empire des Habsbourg, vous savez que voilà, ça va se terminer, qui va balancer leur tradition au pluriel. La mère de Lajos, la belle Maria, un beau personnage mais tragique, et son oncle, le spectral Imre, ne s'en relèveront pas. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais vous le découvrirez en lisant ce grand livre. Et quand Lajos héritera du domaine dans les années 1920, l'éclat d'antan semblera brièvement briller à nouveau. Mais c'est à ses enfants, Eva et Pista, qu'il reviendra de trouver la force de résister aux forces obscures qui annoncent la guerre avec le nazisme et les communistes qui, au nom du parti, vont les exproprier de tous leurs biens. Voici un roman captivant, presque hypnotique, empreint de légèreté et de poésie. Ce récit, Lazare, nous ramène à la question éternelle dans les tourments de la grande histoire, comme dans les beaux jours d'été, comment vivre réellement. Le quatrième livre est un roman policier. Les Mirages d'Adoua, c'est de François Werth, au Rouergue noir, 381 pages, 23 €. François Werth est journaliste, établi à Waterloo, mais il est né en 1960 à Addis Abeba. C'est important pour la suite de cette histoire. Nous l'avions découvert avec son roman « On a tiré sur Aragon », premier opus de sa série bruxelloise, paru en 2025 et présenté dans cette émission, donc sur Radio B 90 FM. Dans ce nouveau livre qui va paraître, nous sommes à nouveau à Bruxelles, un Bruxelles décrit que je retrouve avec plaisir parce que j'ai connu ce Bruxelles-là. Alors que des activistes s'attaquent à Hergé et Hugo Pratt, une jeune érythréenne, Adoua, mais au départ on ne sait pas son nom, mais c'est le titre de ce roman, est découverte, violée et assassinée et mise dans le coffre d'une voiture. Tirée de son lit en plein sommeil par un trio de gendarmes, Victor Rousseau, qui est le personnage principal, qui est le détective plein d'allant de cette histoire, découvre que l'on a déposé dans le coffre de sa 404 le corps démembré d'une jeune femme noire. Quel rapport avec son enquête, parce qu'il a une autre histoire, une autre enquête, une enquête en cours sur Hugo Pratt qu'il doit couvrir. Hugo Pratt est un bédéiste italien qui a grandi en Éthiopie et que d'aucuns accusent d'avoir frayé avec les chemises noires de Mussolini. Ce qui, vu qui est faux, vu son âge, parce que Hugo Pratt, à ce moment-là, est un jeune garçon. Et donc, des menaces sont inconnues, veulent l'empêcher que sa bande dessinée paraisse dans le journal Tintin. Voilà. Et justement, l'effigie du petit reporter est grimée en caricature de Hitler. De quoi ulcérer son créateur, Hergé, vous savez que c'est Hergé qui a construit Tintin. Et donc, nous circulons dans le Bruxelles des années 1968, alors qu'à Paris, c'est une mini-révolution avec des grèves qui se passent. Donc on en parle, hein, mais ce n'est pas le sujet principal. Le détective privé va devoir remuer les souvenirs amers de la lutte de l'Érythrée, parce qu'on parle de cette lutte de l'Érythrée avec beaucoup trop de massacres pour son indépendance, l'Érythrée qui va lutter pour son indépendance. Le roi d'Érythrée doit venir justement à Bruxelles. Et s'il veut arrêter les assassins d'Adoua Wold, parce qu'on a découvert le nom par des amis qui la connaissaient, d'Adoua Wold, il y a deux mercenaires, dont un cruel, sans foi ni loi, qui venait de Sud-Afrique, sud-africain, et un Congolais. Une enquête difficile car de nombreux intervenants, favorables comme Marcel le garagiste qui va beaucoup aider l'enquêteur, voilà. Et surtout, le commissaire, voilà. Et Roland Lemasson, qui est un policier de bon temps, Roland Lemasson, et puis des intervenants contraires, comme les gendarmes, le commissaire Pelletier, et surtout un gendarme félon, qui est le major Coffet, et qu'on retrouvera mort, grâce à Victor. Il a retrouver donc le policier Victor Rousseau, grâce à Victor. Victor, il a retrouvé le carnet de Adoua Lourdes, de Adoua Wald. Il a retrouvé le carnet de Adoua Wald, donc on a sa parole et on entend la parole de cette femme assassinée, violée, assassinée et morte. Sa voix, donc, d'où le titre, parce qu'elle voulait lutter, d'où le titre de Mirage d'Adoua, de François Werther. Et on écoute un peu de musique. J'ai trouvé une musique originale, mais cinéma, qui s'intitule Cinéma, musique de cinéma, avec une pléiade, une bonne pléiade de très bons musiciens. Et je suis tombé sur le canon en fugue de Johann Pachelbel. Vous verrez comment c'est beau. Voilà. On écoute. Thank you. Vous voyez une très très belle musique avec comme chef d'orchestre, un petit orchestre, mais fabuleux, Laurence Equilbet, un CD Erato, avec d'autres musiques de Purcell, de Vivaldi, de Handel, de Jean-Sébastien Bach, de Mozart, de Rameau aussi pour terminer. Donc si vous avez envie de trouver cette musique, musique de cinéma, avec Laurence Equilbet, voilà. Alors le cinquième livre, c'est aussi quelque chose d'une forte intrigue. Ça s'appelle « Les hallucinés ». Hallucinés, c'est de Pierre-Olivier Capéran et c'est édité par le Rouergue Noir. 23,50 pour 540 pages. Donc là, c'est un grand livre. Gros et grand livre. Une forte intrigue qui saisit le lecteur. Il y a un carnage dans un hameau. Un vétérinaire, qui est le premier personnage que l'on découvre, qui broie du noir, un flic bien abîmé qui doit mener une enquête quand même, et une aqueuse en chemise à fleurs. Et bienvenue dans le Morvan, parce qu'une grande partie de ce roman se situe dans le Morvan, une belle région. Alors Martin Reynard, grand personnage de ce roman, c'est lui le vétérinaire, est vétérinaire. Il vient de reprendre un cabinet sur le déclin à Château-Chinon. Une belle cité, Château-Chinon. Mais depuis quelque temps, ce géant qu'on verrait bien en troisième ligne sur un terrain de rugby se sent épuisé. Et le climat automnal n'arrange rien à son état vaguement dépressif. Pire, un matin, alors qu'il observe des chevreuils à proximité de sa maison, une étrange tache bleue apparaît dans son champ de vision, ce qui l'affole. Il va essayer de voir un spécialiste de la vision, qui pour lui, il n'y a rien, ça ne correspond pas, ça ne correspond à rien. Cette vision bleue, sorte d'hallucination, d'où le titre de ce roman. Alors qu'il fait des recherches sur Internet, afin de raccorder ce phénomène inexplicable à une maladie, il tombe sur un message laissé par un homme depuis la Côte d'Ivoire. Un homme se plaint de symptômes similaires. Peu à peu, autour de Martin, des événements inquiétants se multiplient. Dans le même temps, au Mali, un soldat français, voilà, on retrouve des soldats français au Mali, et une jeune femme policière, une jeune femme soldat aussi, Pascal, sont plongés, un soldat français plonge ses équipiers dans la tourmente, qui voit aussi des hallucinations. Et les hallucinations, chez lui, vont le porter à se servir de son arme, donc à faire violence. Et dans ce roman, dans ce grand roman, le lecteur est entraîné, car on a vraiment, je vous assure, on a vraiment envie de comprendre ce qui se passe dans cette histoire forte, un premier roman palpitant entre Morvan et Afrique de l'Ouest, avec des personnages inoubliables, dans une intrigue sous haute tension. Et puis, il y a, vous verrez, je vous dévoile un tout petit peu, le silence des militaires français. Voilà. À découvrir, à lire et à découvrir Les Hallucinés de Pierre-Olivier Capeyron. Alors, je vous présente maintenant un livre, le sixième, un livre qui s'appelle La vie avec un grand V, vie impair et passe. 376 pages, 22,90 euros. C'est de Jean-Michel Guénassia. Et ça vient de paraître chez Albin Michel. Et je remercie Gilles Paris, parce que c'est grâce à lui qui m'a diffusé que j'ai reçu ce livre. Et si la vie, avançait comme un lancer de dés? Voilà. C'est la question que se pose Jean-Michel Guénassia en abordant, en présentant ce roman. Et à cause d'un stupide quiproquo que vous découvrirez, Danny, le personnage principal de ce roman, La vie impair et passe, fils et petit-fils de forains, voilà, on est là chez les forains, se retrouve un jour abandonné par sa communauté. Et grâce à cette mésaventure originale, il atterrit chez Lucie, autre personnage, et son compagnon Hector. Hector est un braqueur mélancolique, passionné d'opéra, c'est important de le dire, et son existence en sera définitivement chamboulée, comme celle de tous les protagonistes de cette histoire menée tambour battant. C'est le cas de le dire qu'il y aura beaucoup de musique dans cette aventure que vous découvrirez en le lisant. De la fête foraine à la prison de Fleury-Mérogis, en passant par le casino de Sète, oui, on voyage. Ben, les forains voyagent, vous savez, ils vont de ville en ville. Donc, de casino de Sète ou le couvent des Clarisses, la vie impair et passe, ce sont les voix de héros inoubliables, je peux vous le dire, les héros sont inoubliables, qui vont tour à tour mener le récit, parce que voilà, ils prennent la parole, ces héros inoubliables, et se révéler au lecteur. Et on va de coïncidence en malentendu dévastateur, d'amour blessé en rencontre miraculeuse. C'est vraiment à lire. C'est une pépite, ce roman. La vie impair et passe, paru chez Albin Michel. Jean-Michel Guénassia donne au choc de ses destins contrariés, vous comprendrez pourquoi ils sont contrariés, ou abandonnés, semble-t-il. L'ampleur, il donne au choc de ses destins contrariés l'ampleur d'une fresque débridée et follement romanesque. Alors je vais dire que je parlerai brièvement d'un septième livre. Navré, voilà. cinquième livre, Navré, de Raphaël Jérusalami. Aux éditions L'Animal, c'est une diffusion Gilles Paris. Même si je le reconnais, un titre d'ailleurs, le titre, Navré, un titre plein d'ironie, même si c'est bien écrit, mais le thème, voilà, nous sommes plongés dans ce roman, c'est un roman, à Paris en 1889. Une cuisinière qui est le grand personnage de ce roman, en plus du héros principal, une cuisinière trop attentionnée. Et l'on comprendra pourquoi en lisant ce livre. Avec des morts mystérieuses, dans cette histoire crépusculaire, avec Gustave, que ça voilà, c'est lui le personnage de ce roman, un rentier solitaire, aussi raffiné dans ses goûts qu'il est bourru dans ses manières. Il erre dans une capitale en pleine mutation, poussant parfois jusqu'au jardin d'acclimatation où il fait la connaissance d'un sauvage qu'il retrouvera d'ailleurs à la fin du roman. Là réside tout l'intérêt que j'ai trouvé dans ce roman. Parce que le personnage Gustave est un peu trop égoïste, il ne pense qu'à se nourrir et se bien nourrir. Il sera un peu comme les affamés, il va en mourir d'une indigestion de ce que prépare la cuisinière. Voilà. Alors je vous parle effectivement d'un septième livre qui me tient particulièrement à cœur. Ce livre s'intitule « Lourdes ». Ce qu'on ne dit presque jamais de Lourdes, c'est de Bernard Marie, aux éditions Pierre Tecky. Et j'ai pu le trouver à la librairie Montbarbon sans avoir à le commander. Donc, je pense que ce livre est un signe du ciel, comme si l'exemplaire m'attendait. Voici par ce livre, Lourdes, ce qu'on ne dit presque jamais, un nouveau regard sur les événements de Lourdes, qu'on croyait jusqu'ici bien connu. Certes, les apparitions de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous en 1858 sont d'une simplicité évangélique. Mais comme les évangiles, elles sont également porteuses d'une belle lumière sur le mystère de Dieu. De nombreux détails peu connus, voire ignorés, sont ici scrutés, écoutés avec le cœur, non pas avec les oreilles, parce que dans les oreilles, il y a le diable qui écoute. Écoutés avec le cœur, médités. Et Dieu nous parle dans le silence ou dans le murmure, mais pas dans le bruit. Et qui ne s'est jamais demandé pour quelle raison la belle dame, l'Immaculée, avait si souvent fait silence à la grotte, donnant davantage à voir qu'à entendre. C'est là son enseignement, adressé à Bernadette, une enfant de 14 ans, petite, 1,40 m, comme la belle dame. Elle faisait 1,40 m d'après la description de Bernadette. Et malingre, elle ne savait ni lire ni écrire, c'était une bergère parce qu'il fallait bien vivre, et qui ne connaissait même pas ses prières. Vous, Connaissez-vous les originalités dont elle a accompagné ses 18 visites, avec une réflexion profonde qui permet de mieux goûter le sens ecclésial et spirituel du mystère de Lourdes. L'auteur Bernard Marie, au tiers ordre franciscain, est docteur en théologie, diplômé de langue biblique et aussi ancien brancardier auprès des sanctuaires lourdais. Auteur de très nombreux livres singuliers, il signale que si, aux yeux des catholiques du monde entier, Rome est par son pape un cœur qui dirige et dynamise toute l'Église, depuis un peu plus d'un siècle, on peut également dire que Lourdes est devenue en quelque sorte sa capitale mariale universelle, raison pour laquelle le pape Léon XIV y viendra en septembre. Ce mois-ci donc. Ce que le monde tient pour faible est ce que Dieu a choisi pour confondre les forts, nous dit saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Voici les principales paroles de la Vierge Marie à Bernadette du 18 février au 25 mars 1858. D'abord, elle vous voit, la petite Bernadette. Le 18 février, voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant 15 jours? Je ne promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Le 24 février, pénitence. Vous priez Dieu pour les pécheurs. Allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs. Donc, ce qu'elle va faire, Bernadette, et se mettre de la terre partout sur le visage. Le 25, 26, 27 février, allez boire à la fontaine et vous y lavez, puisqu'elle avait mis de la terre. Allez manger de cette herbe qui est là. Allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs. Le 27 et 28 février, pénitence encore. Le 2 mars, allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. Ce qui sera fait. À une date incertaine, mais probablement le 4 mars, je vous défends de dire cela à personne. Et Bernadette fera cette promesse de le dire à personne, même après, quand elle va devenir une religieuse, elle ne parlera pas de cette rencontre, de ces rencontres. Le 25 mars, en fête de l'Annonciation, elle dit, la Vierge Marie, « Je suis l'Immaculée Conception ». Elle a parlé en argot que soy era Immaculada Conception. Elle va le dire, donc Bernadette va le dire au prêtre. Et bien sûr, le prêtre comprendra qu'elle ne pouvait pas inventer qu'elle était l'Immaculée Conception et que c'est vraiment la Vierge Marie qui est parue, revenu à Lourdes voir Bernadette. On peut découvrir avec admiration et action de grâce que le siècle suivant considérait Lourdes comme la capitale mariale de la France, l'un de ses plus hauts lieux spirituels où convergent des pèlerins venant du monde entier. Dès les premières années, les guérisons physiques furent nombreuses, mais les conversions du cœur le furent tout autant, sinon davantage. Donc Bernadette deviendra une religieuse à Nevers sous le nom de Sœur Marie Bernard. Et je voulais vous lire les prières jointes dans ce livre, Lourdes, ce qu'on ne dit presque jamais, édité par Pierre Tecky de Bernard Marie, où l'on voit la Sainte Vierge Marie avec sa robe blanche et sa ceinture bleue dans la grotte, parce que ça montre bien l'itinéraire de Sœur Marie Bernard. Mon Dieu, je crois en vous, j'espère en vous, je vous aime, je m'abandonne. Elle retrouve ce terme-là, je m'abandonne. Ce que Dieu veut, comme il le veut et autant qu'il le veut. Je m'abandonne à lui et je mets ma joie à être la victime du cœur de Jésus. Ô Marie, c'est au fort de la douleur et de l'épreuve que vous êtes devenue ma mère. Je dois donc avoir une grande et entière confiance en vous. Lorsque je serai sous le coup de l'épreuve de la part des créatures et que je serai exposé à la tentation et à la désolation de mon âme, je viendrai me réfugier dans votre cœur, ma bonne mère, et vous prier de ne pas me laisser périr, de m'accorder la grâce d'être soumise et confiante dans l'épreuve, car sa vie sera une épreuve, à votre exemple de souffrir avec amour, ce que je reste comme vous debout au pied de la croix, et cloué sur la croix, si tel est le bon plaisir de vous, chère fille. Jamais une enfant dévouée à Marie ne pourra périr. Ma bonne mère, ayez pitié de moi. Je me donne tout entier à vous, afin que vous me donniez à votre cher fils, que je veux aimer de tout mon cœur. Ma bonne mère, donnez-moi un cœur tout brûlant pour Jésus. Voilà, je voulais terminer là-dessus, sur ces paroles qu'a dites, donc ces prières dites par Sœur Marie Bernard à Nevers, au couvent Sainte-Gildard. Voilà. À bientôt, au revoir, bonne lecture à vous. Yeah.